so hot. So hot.
This is the sound of the 30s.
One, two, three, four.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à l'émission Microéthique sur Radio Créum. Et le titre de cette émission est Défi énergétique et consommation. Margot, tu vas présenter l'émission et nous inviter.
La planète s'épuise. L'utilisation des ressources énergétiques a et aura des conséquences catastrophiques pour l'environnement, mais aussi pour nos conditions de vie. Les impasses énergétiques, ainsi que les effets à long terme du gaspillage des ressources et de la pollution environnementale, nous imposent de nous interroger à la fois sur nos pratiques individuelles de consommation et sur les politiques régionales, nationales et mondiales en matière environnementale. Mais comment agir ? Les défis énergétiques de nos sociétés contemporaines, et en particulier au Québec, exigent-ils un resserrement des réglementations et une meilleure gestion de la demande et des prix ? Ou plus radicalement, une modification profonde des institutions et des structures sociales, comme par exemple le suggère le paradigme de la décroissance. Pour en parler, nous aurons Yves-Marie Abraham, professeur agrégé à HEC Montréal, spécialisé en sociologie et en anthropologie de l'économie. Il défendra l'idée d'une décroissance soutenable. Nous aurons aussi Maya Yegen, professeur à l'UQAM, au département des sciences politiques, spécialisée sur les politiques publiques de l'énergie. Elle travaille sur l'acceptation populaire des politiques énergétiques. Et enfin, Pierre-Olivier Pinault, professeur agrégé à HEC Montréal, spécialisé sur l'impact environnemental des échanges d'énergie. Il défend la thèse de l'augmentation volontaire du prix de l'électricité dans une perspective de responsabilisation des consommateurs. Nous aurons aussi Dominique Martin, candidat au doctorat à l'Université de Montréal et à l'Université catholique de Louvain. On pourra entendre la chronique de Marc Zafran, qui nous racontera l'histoire du mot « consommateur », puis celle de Daniel Van Stock, qui nous fera part de sa dernière lecture récente.
Et puisque nous allons parler de consommation aujourd'hui et des manières de modifier nos habitudes de consommation pour produire finalement moins d'externalités, nous avons décidé de vous offrir de la musique recyclée. Donc, ce n'est pas de la musique qui a été nouvellement créée, ce sont des anciennes pièces musicales qui ont été recyclées et qui font de la nouvelle musique. Et c'est un peu ce qu'on peut appeler parfois du mash-up ou du mix. Et un album qu'on va entendre tout au long de l'émission est celui de Buddha Booty sur l'étiquette Buddha Beats. Et on va immédiatement entendre Cloud Factory Sound System, qui nous offre Ray Swing avec des repiquages des années 70.
Alors Pierre-Olivier Pinault, je vais commencer avec une question pour vous. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'épuisement des ressources?
Ben, en fait, c'est un peu un paradoxe parce qu'on vit dans une société où on a une abondance extraordinaire de ressources. Et quand on parle de l'épuisement des ressources, on parle de l'épuisement des ressources non renouvelables. Et même ces ressources non renouvelables, elles se trouvent en quantité phénoménale dans l'écorce terrestre. Le problème, c'est que les quantités qui étaient facilement accessibles deviennent rares. Donc, on doit aller toujours plus loin, toujours plus profond pour aller chercher le pétrole, le gaz naturel, le charbon. Le charbon, en fait, c'est même pas vrai. On a encore des réserves de charbon facilement accessibles pour 100 ou 200 ans, voire plus. Le problème, c'est gérer l'abondance. On a une telle abondance de ressources non renouvelables et une abondance encore plus grande de ressources renouvelables qu'on sombre facilement dans ce qui est le plus facile et d'aller dans les ressources qui polluent, qui sont risquées, qui ont un grand nombre d'externalités parce que pourquoi est-ce qu'on va vers ces ressources-là ? Parce qu'elles ont des côtés extrêmement pratiques, la densité de l'énergie qui nous permet de l'utiliser facilement dans des voitures, qui permet facilement d'avoir accès à un grand nombre de services énergétiques. Et le défi, c'est donc de se sortir de cette facilité dans laquelle on a développé notre société. On pourrait s'y maintenir encore quelques années, voire un certain nombre de décennies, mais évidemment, on ferait face à un nombre de problèmes croissants, autant en termes de changement climatique, qu'en termes de pollution, qu'en termes de risques de rupture d'approvisionnement subite ou même de fluctuations de prix énormes. Et les gens n'aiment pas les fluctuations de prix, donc en restant dans le modèle actuel, on se soumettrait à un ensemble de risques qui deviendraient de plus en plus intolérables. Donc il devient très important de s'extraire de ce modèle actuel de consommation de ressources non renouvelables pour revoir sa consommation pour justement s'extraire des risques et se tourner vers des sources d'énergie qui sont extrêmement abondantes mais qui ont une densité beaucoup plus faible, donc qui sont beaucoup plus difficiles à aller chercher.
Ok. Et Maya Yeagan, est-ce que vous pourriez nous faire un panorama rapide des principales positions qui existent pour parler de l'environnement?
On peut distinguer quatre visions du monde par rapport à l'environnement. Donc, à chaque vision perçoit les problèmes environnementaux de façon différente, identifie les causes des problèmes différemment et puis envisage aussi les solutions différemment. D'un côté, il y a les libéraux qui partent en fait d'un modèle d'économie néoclassique qui voit en général la mondialisation comme une force positive, qui voit les problèmes environnementaux causés en fait par le manque de croissance économique, par des problèmes de pauvreté, par les déficiences du marché ou aussi par des mauvaises politiques publiques. Et pour les libéraux, les solutions sont avant tout basées sur le marché, le progrès scientifique et le progrès technologique. D'autre côté, on a des institutionnalistes qui partagent certaines idées des libéraux. Ils partent aussi d'une croissance économique qui est importante. Ils croient aussi en la mondialisation, qui pensent aussi que le progrès technologique est important. Et puis, surtout aussi, ils insistent beaucoup sur la notion du développement durable, donc cette notion qui essaie de réconcilier la dimension environnementale, économique et sociale. Pour les institutionnalistes, et contrairement aux libéraux, ils insistent beaucoup sur l'importance des institutions fortes, sur des normes. Et pour eux, les problèmes sont surtout causés par le manque de coopération internationale pour envisager les solutions. Troisièmement, on peut parler des bio-environnementalistes. Pour eux, les problèmes, c'est surtout lié aux limites physiques de la planète. C'est un peu ce que Pierre-Olivier a mentionné. Donc, c'est le problème qu'on consomme trop aujourd'hui, puis qu'on produit aussi trop de déchets. Et pour les bio-environnementalistes aussi, souvent la croissance démographique est soulignée comme problème. Donc, on peut dire que c'est un peu les Malthusiens de l'époque moderne. Et donc, ils insistent beaucoup sur les limites de croissance économique et démographique. Et pensent qu'il faudrait changer les mesures de mesurer le progrès. Donc, ils ne pensent pas que les outils qu'on a aujourd'hui, comme le PIB, etc., sont des bons indicateurs pour mesurer le progrès. Finalement, on peut parler des écologistes sociaux. Eux, ils font un rapport très fort entre les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. Comme les bio-environnementalistes, ils pensent qu'il y a un problème de surconsommation qui est important, mais ils ont pas malthusiens comme les bio-environnementalistes. Pour eux, un des grands problèmes, c'est la mondialisation. Donc, ils voient la mondialisation comme la continuité de la domination et du contrôle, en fait, la suite de la colonisation. Et pour eux, les solutions se trouvent beaucoup plus sur le plan local et à petite échelle. Donc, c'est en gros un peu les quatre visions qu'on peut distinguer.
Ok. Et pour rebondir justement sur la dernière position, est-ce que ce serait pas le problème des défis d'énergie ne serait pas un problème plus global qui imposerait de penser à un changement radical de société? Je ne sais pas qui est-ce qui peut répondre. Peut-être Yves-Marie, Abraham.
Donc moi, je ne suis pas du tout un spécialiste d'énergie, mais il me semble effectivement que c'est en tout cas c'est un beau cas qui pose vraiment le problème de la viabilité de notre modèle de société. Enfin, on peut vraiment se poser cette question à partir de la question de l'énergie. Maintenant, on peut aussi faire cette critique, comme l'a esquissé Maya, à partir de d'autres points de vue. C'est-à-dire il y a la question environnementale, bon, qui est bien posée à partir de la question énergétique, mais bon, il y a la question sociale, tout simplement, qui est qu'on va retrouver à la base de la critique, la quatrième critique qu'évoquait Maya, bon, qui débouche aujourd'hui sur des formes d'écosocialisme, par exemple. Donc on va faire une critique fondamentale du capitalisme. Bien sûr qu'il y a la dimension environnementale, mais elle est à la limite même pas première. Enfin, donc il y a une critique de fond du modèle sur la base d'autres valeurs qui sont fondamentalement les valeurs de la modernité, qui restent celles de liberté, d'égalité.
Il n'y a de crise de l'énergie que parce qu'on a une demande d'énergie, et cette demande, c'est la consommation. Donc c'est vraiment l'énergie est consommée dans le transport, dans les bâtiments, et dans grande partie aussi est très présente dans le type d'alimentation qu'on a. Certains aliments ont une intensité énergétique beaucoup plus grande pour être produits. Donc il n'y a de crise de l'énergie que parce qu'on a des types de consommation qui requièrent énormément d'énergie, ont une grande intensité énergétique pour avoir les modes de transport qu'on a adoptés, la voiture individuelle, pour avoir des bâtiments tels qu'on les a, des maisons de plus en plus grandes individuelles, et pour manger une alimentation essentiellement carnée. Mais à partir du moment où on revoit certaines consommations, on peut maintenir un certain niveau de vie, c'est-à-dire avoir une mobilité personnelle peut-être même plus élevée qu'à l'heure actuelle, ou avoir des bâtiments plus confortables et manger mieux, mais en ayant des sources d'approvisionnement beaucoup moins énergivores. Donc c'est vraiment, il faut arriver à une refonte de la consommation pour régler cette crise de l'énergie. Et ça, on peut le faire à travers différents mécanismes que Maya a décrits, qui sont plus imposés ou plus volontaires, ou qui viennent plus de mécanismes formels ou informels.
Ok, donc on voit à quel point la consommation est centrale dans ce genre de problématiques.
C'est pas seulement la consommation. Enfin, je suis entièrement d'accord avec Pierre-Olivier là-dessus, mais il y a d'autres éléments. On parle d'économie du savoir aujourd'hui. Le savoir scientifique aujourd'hui, il est excessivement consommateur d'énergie. De plus en plus, on a un collègue ici à l'Université de Montréal qui est un théoricien pur, un biochimiste, qui est Hervé Philippe, qui s'est amusé très sérieusement à faire le calcul justement de sa dépense d'énergie. Lui, en tant que théoricien, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur des choses qui a priori ont une forte ponction sur nos ressources, et il se rend compte que pour produire ces articles, là, de fait, il fait tourner des machines extrêmement puissantes qui dépensent énormément d'énergie, et plus ça va, pour faire progresser ce savoir, qui a priori, lui, bon, paraît être sans incidence directe sur l'environnement, mais plus il a besoin d'énergie. Donc y compris pour ce genre de production-là, qui paraissent intangibles, immatérielles, en fait, il y a derrière une infrastructure extrêmement coûteuse et qui, pour progresser, va nous amener toujours à aller chercher davantage d'énergie. Bon, ce qui n'empêche pas des économies, mais dans la logique même du processus de production du savoir, on retombe sur ce problème.
Ok. Alors, Marc Zafran, vous allez vous pencher plus sur le mot consommateur. Vous allez nous raconter son histoire.
Alors, je vais commencer d'abord par dire d'où je parle, parce que c'est toujours important. Dans les années 70, on disait, avant de parler, dis d'où tu parles, camarade. Et c'est en rapport justement avec le problème d'aujourd'hui. En quittant la France et en arrivant au Québec, j'ai diminué très fortement ma consommation. Je n'ai plus de voiture, je n'ai plus de micro-ondes, je ne regarde plus la télé, je mange moins de viande, ça c'est de l'influence de mes collègues du Créum. Et ça m'a amené à réfléchir justement depuis 3 ans à la nature de ce que c'est qu'un consommateur. Et c'est donc teinté de cette évolution insensible que je n'ai pas décidé, mais qui s'est faite parce que je suis venu ici, que j'ai cherché l'origine du mot. Et j'ai rencontré un problème que je n'avais pas prévu, c'est que je suis écrivain, donc j'ai beaucoup beaucoup de dictionnaires chez moi en principe, mais là tous mes dictionnaires sont au garde-meuble en stockage, parce que je n'ai pas de place chez moi. J'ai décidé d'avoir une maison moins grande, que je chauffe peu, donc je consomme moins, mais du coup je ne peux plus consulter mes dictionnaires. Heureusement, j'ai deux sources d'informations pour cette chronique. La première, c'est évidemment l'Internet. Alors là, il faut aller chercher des fois des sites qui sont des sites d'étymologie intéressants. Il y en a, mais il faut les chercher. Et puis, j'ai le vieux dictionnaire littré de mon père, qui date de 1881 et qui m'a beaucoup aidé tout pendant ma vie. Et donc, consommateur, puisqu'on veut parler du mot consommateur, le mot consommateur vient du verbe consommer, qui apparaît en 1120 sous la forme de consumer, C-O-N-S-U-2-M-E-R, qui veut dire détruire ou anéantir. Et de fait, le mot consommer a deux origines. Le premier, c'est le verbe consumo, avec un seul M, consumere, qui signifie absorber quelque chose ou le détruire en s'en servant, et en particulier consommer de la nourriture, détruire la nourriture en l'assimilant. Et qui a donné évidemment le verbe consumer. Mais consommer vient aussi du verbe consumo avec deux M, consumo, consumare, qui est formé de cum avec et de summa, qui signifie la somme. Autrement dit, consumo, c'est faire la somme ou additionner. Et par extension, c'est accomplir ou parfaire, c'est-à-dire terminer quelque chose. D'ailleurs, en 1588, on parle de consommer un mariage. Consommer un mariage, ben c'est consommer une union, c'est-à-dire s'aimer au sens biblique pour procréer. Ce qui est intéressant parce que consommer, en l'occurrence, est productif à terme. Ce qui est intéressant, c'est que la confusion entre les deux termes, consommer, consumer, existe dans le latin religieux. C'est le latin religieux qui fait la confusion. Et les deux mots finissent par se confondre, accomplir et détruire. Cette confusion se retrouve clairement, par exemple, dans le mot français « achever », qui peut signifier aussi bien « terminer » que « tuer ». Et le mot « consumérisme », le mot moderne, reflète bien aussi cette confusion entre « consommer » et « consumer ». Évidemment, en anglais, « a consumer », c'est un consommateur, ce qui reflète aussi l'origine latine. Du coup, notre vision du mot « consommateur » devient plus claire. Le consommateur, c'est à la fois celui qui brûle les ressources et qui donne sa fonction à un objet ou à un service. S'il n'y avait pas de consommateurs, à quoi serviraient les hôpitaux, les distributeurs de billets, les magasins de fringues, les services publics, les marchands de glace? Ce qu'on aimerait, évidemment, c'est que les consommateurs soient plus dans l'addition que dans la consomption. Qu'ils construisent au lieu de détruire, qu'ils accomplissent plus et achètent, et donc achèvent moins. Qu'ils consomment plus au sens biblique, puisqu'il n'est plus nécessaire de se marier, et moins dans le sens d'Hydro-Québec ou des compagnies pétrolières. La consommation, on rêve qu'elle cesse d'être effrénée, frénétique, anarchique, et qu'elle fasse plutôt preuve de retenue, de soin, de réflexion. On aimerait que les consommateurs soient plus sommateurs et moins cons, qu'ils consument moins, bref, que ce soit des citoyens parfaits, accomplis, éprouvés, autrement dit, consommés.
Merci beaucoup Marc. Merci de nous aider à réfléchir sur ce sens, sur les multiples sens du mot consommateur. Et lorsque tu faisais l'histoire du mot, je me disais, il y avait aussi un autre. On peut aussi dire que parfois on disait acheter, c'est voter. Et là, j'ai l'impression qu'on peut dire aussi acheter, c'est achever. c'est le temps de repasser la parole aux invités. Et nous allons continuer avec des questions cette fois pour regarder diverses façons de faire face aux défis énergétiques dont on a parlé tout à l'heure, et qu'il s'agirait finalement de regarder deux positions qui s'opposent sur ces solutions possibles-là, soit d'un côté la croissance raisonnable et de l'autre côté une décroissance, on pourrait appeler une décroissance soutenable, et qui permettrait finalement de répondre aux problèmes dont on a parlé. Alors, les questions qu'on pourrait poser à nos invités, à Pierre-Olivier et à Yves-Marie et à Maya, et ainsi qu'à Dominique, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que, sachant que la consommation influence la production de biens, est-ce qu'on peut espérer des changements d'habitude de consommation qui vont être positifs par rapport à la production de biens, par rapport donc aux externalités ou aux problèmes que soulève une production de biens dans un monde qui est de plus en plus mondialisé? Et si on peut espérer ces changements d'habitude, est-ce qu'on peut les faire accepter si ce sont des mesures restrictives aux consommateurs ou des mesures qui doivent nécessairement amener à des changements de comportement? Et par exemple, on peut penser aux problèmes qu'ont soulevé l'acceptation des projets éoliens au Québec. Les projets éoliens, ça peut être une bonne chose, mais il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ces projets éoliens. Et je pense, Maya, que tu as un peu travaillé toi-même sur l'acceptation des projets éoliens. Et qu'est-ce que tu penses de ça, cette difficulté qu'il peut avoir à changer les habitudes de consommation?
Bon, je pense, je commence peut-être à parler un peu, il y a des manières différentes de changer le comportement des consommateurs. On peut distinguer de nouveau si on veut quatre. Donc il y a la réglementation qui apparaît des lois. On peut évidemment essayer de modifier le comportement des acteurs aussi bien de l'industrie que des consommateurs individuels. Et dans ce sens-là, on peut sanctionner un mauvais comportement. On peut utiliser des instruments économiques. Puis je suis sûre qu'on va revenir à ça. On peut utiliser des incitations. On peut essayer de par des incitations d'internaliser les coûts externes. Là, il y a l'idée derrière que le pollueur paye pour le comportement polluant. On peut évidemment aussi utiliser des subventions, des crédits d'impôt, etc. On peut utiliser la coopération comme instrument. Donc, on peut penser à des mesures volontaires, à des accords volontaires entre le gouvernement et les secteurs privés. Mais aussi, on peut penser à l'autorégulation. Donc, on part de l'idée que les entreprises, l'industrie se régulent eux-mêmes pour changer leur comportement. Puis finalement, on peut penser à l'information. Donc, on a aujourd'hui pas mal des labels sur le marché, des écolabels comme par exemple l'Energy Star, qui incitent aussi à un changement de comportement, qui donnent de l'information aux consommateurs, quel appareil est bon ou pas du point de vue énergétique. Et bien aussi, l'éducation peut sensibiliser évidemment les consommateurs et changer leur comportement. La question qui se pose pour moi, c'est quelle est l'efficacité de ces instruments différents, aussi quelle est la faisabilité politique de ces instruments, puis finalement, est-ce qu'il y a une volonté politique pour les mettre en œuvre. Puis là, selon les catégories que j'ai présentées, les réponses sont très différentes. Donc, pour revenir à l'acceptabilité des projets éoliens, là, évidemment, il y a des questions très différentes. C'est une question assez complexe et puis je suis assez mal à l'aise de donner une réponse claire à ça. Il y a d'un côté, évidemment, les individus qui sont confrontés à un projet peut-être devant leur maison, qui ont tout à fait une autre idée que quelqu'un qui consomme de l'énergie et puis avant tout intéressé à avoir de l'énergie qui est peut-être propre. Donc là, évidemment, les comportements vont être assez différents.
Sur les différents mécanismes dont parle Maya, est-ce que Pierre-Olivier, Yves-Marie, vous avez des éléments de réponse par rapport à ceux qui sont les plus acceptables ou plus faisables ou qui ont plus de chances d'arriver à un résultat?
C'est pas les mêmes questions, hein, entre l'acceptable et le faisable. Mais moi, je dirais que sur la du côté de la mouvance de la décroissance, on va essayer de privilégier d'avoir le plus possible une réappropriation de ces décisions, donc une réappropriation démocratique autant que faire se peut. En tout cas, c'est ce qu'on va prôner, contre un risque qui est celui de l'expertocratie, comme disait André Gorz, et qui est probablement quelque chose qu'on subit déjà et qu'on risque de subir de plus en plus. C'est-à-dire que ces décisions-là, elles vont être imposées par la force et elles vont être le fruit de décisions qui sont nourries par des travaux d'experts. Mais donc, ça va être encore une évacuation de ce qui reste peut-être de démocratie, s'il en reste un peu. Donc ça, ce serait la première chose. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour changer? De quelle manière on s'y prend? On va, en ce qui nous concerne, prôner des mécanismes aussi démocratiques que possible, ce qui suppose en partie certainement aussi une relocalisation des mécanismes de décision, etc. Donc ça, ce serait ma première réponse à ce type de questions.
Je pense qu'il faut absolument utiliser les quatre. Et on a un excellent exemple qui est celui du tabac, où on a eu vraiment une application pour réduire la consommation de tabac que tout le monde sait être problématique, ou à l'heure actuelle on le sait. On n'a pas toujours su, mais ce sont des experts qui ont dû démontrer que c'était mauvais, même si peut-être l'intuition humaine permet de savoir que c'est pas bon fumer un paquet par jour. Mais c'est une réglementation sur les lieux où on peut acheter et fumer, une taxe supplémentaire sur le tabac qui rend la cigarette moins accessible. Des habitudes volontaires, donc des gens qui décident par eux-mêmes d'arrêter de fumer parce qu'ils ont décidé de le faire, et de l'information. On dit aux gens, on explique ce que la science expériences à trouver sur les dangers du tabac, et on laisse malgré tout le choix aux individus de fumer s'ils le veulent. Donc, sans brimer la liberté individuelle, on utilise les quatre outils qui ont été mentionnés de manière assez efficace, pas parfaite, mais assez efficace. Donc, ça serait vraiment ce que je prônerais pour les questions énergétiques, qu'à la fois, on explique bien à la population pourquoi est-ce qu'on agit avec des taxes, des règlements, et pourquoi on fait appel à leur volonté individuelle pour changer leur comportement. Mais faire uniquement appel à un des quatre et uniquement dire à la population volontairement renoncer à votre voiture individuelle alors que vous serez peut-être le seul à le faire ou qu'il n'y a pas un mouvement collectif, eh bien, c'est peut-être retarder la solution qui est très urgente de mettre en œuvre le plus rapidement possible. Donc, je pense que l'information est essentielle. Laisser la liberté aux gens est aussi essentiel. Il ne s'agit pas d'interdire les voitures, il ne s'agit pas d'interdire le pétrole ou d'interdire quoi que ce soit. Il s'agit simplement de s'assurer que la manière dont ces produits-là arrivent aux consommateurs, la manière dont ils sont tarifés et utilisés, respecte les contraintes de notre monde naturel.
Oui, juste réagir à l'exemple que prenait Pierre-Olivier. Effectivement, on voit bien dans le cas de la cigarette que on peut changer des habitudes de consommation. Ça marche, et ça marchait assez vite pour des habitudes qui paraissaient très invétérées. Enfin, bon, puisqu'on parle d'une drogue, il me semble que c'est très différent quand on parle de l'automobile. Là, on a une technique industrielle, disait Illich, qui aujourd'hui participe de ce que lui appelait un monopole radical. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se passer du transport motorisé. C'est-à-dire que notre monde fonctionne là-dessus. Alors c'est là, ça nous amène sur un autre terrain qui est non plus celui du consommateur. Le consommateur, il a de fait pas le choix aujourd'hui. Il est obligé de passer par le transport motorisé. Et donc ça nous ramène du côté de la production. Alors si on consomme ce qu'on consomme, c'est aussi parce qu'il y a des producteurs qui ont intérêt à ce qu'on consomme et qui sont pas du tout disposés pour l'instant effectivement à renoncer à tout ça. Donc les intérêts économiques associés aujourd'hui à l'utilisation de l'automobile sont tels que c'est pas effectivement en taxant les consommateurs qu'on va faire bouger les choses. Il y a des choses bien plus importantes là derrière, il me semble.
Oui, Dominique, tu voudrais peut-être ajouter un petit quelque chose.
Ben oui, en fait, je me permettrais peut-être de poser une question aussi. Donc, si j'ai bien compris, tu voulais savoir dans quelle mesure on pouvait changer les habitudes de consommation énergétique des Québécois en les amenant peut-être davantage à consommer de l'énergie éolienne. Donc, on a parlé de différentes façons d'arriver à ça, mais une des choses qui est nécessaire d'abord et avant tout pour donner plus de poids aux consommateurs, c'est de leur donner la possibilité de choisir sur le type d'énergie qu'ils vont consommer. Et ça, à l'heure actuelle, en fait, ce n'est pas possible au Québec, puisque c'est une société d'État qui gère l'approvisionnement en électricité sans donner la possibilité aux consommateurs de choisir par rapport à un type d'énergie face à un autre. Donc ces mesures-là qui ont été proposées sont sûrement toutes efficaces et sûrement nécessaires de les adopter, mais d'abord avant tout, il faut aussi donner le choix aux consommateurs d'aller avec un type d'énergie par rapport à un autre.
Merci. Ben, par exemple, on pourrait dire que le consommateur a le choix de modifier sa consommation d'énergie. Il a le choix de baisser sa consommation d'énergie. Est-ce que c'est déjà pas le début d'un choix ou...
C'est tout à fait le début d'un choix et ce choix-là doit être offert au consommateur et il doit faire le bon choix. Mais il est aussi important, à mon sens, qu'il puisse choisir le type d'énergie qu'il veut consommer.
Oui. Maya, oui, peut-être oui. Juste pour prendre un exemple, c'est en fait finalement pour traduire un peu la question, c'est que un marché libéralisé encouragerait une consommation plus verte et des énergies renouvelables, etc. Si on regarde l'Europe où les marchés ont été libéralisés, effectivement il y a une partie des consommateurs qui ont fait le choix pour des énergies renouvelables, mais je pense pas que c'était suffisant pour vraiment encourager une transition vers un autre type d'économie. Donc ça peut jouer un peu, mais je pense pas que c'est l'élément qui va effectivement changer le comportement.
Merci. Je voudrais saisir la balle au bond qu'a lancé Yves-Marie tout à l'heure en insistant sur la question de la production. On a fait quelques entrevues avec des personnes avant d'enregistrer l'émission et notamment j'ai fait l'entrevue avec Frédéric Mona qui est un cofondateur d'une compagnie de vélos qui s'appelle Balfa, qui sont des vélos spécialisés, des vélos de descente. Compagnie qui s'est fait racheter par une compagnie américaine qui a ensuite fermé l'usine pour éliminer la compétition, mais bon, ça c'est une autre histoire. Frédéric connaît beaucoup la production du métal et de toutes les différentes pièces qui rentrent dans la production des vélos et je lui ai posé des questions sur qu'est-ce que signifierait, par exemple, d'internaliser les coûts en matière de production de vélos ou de voir à, si c'est possible d'avoir une décroissance. Et écoutons les réponses de Frédéric.
Si on inclut un prix de conscience écologique, le vrai coût de pollution, de transport, d'empreinte écologique, il y a un segment de marché qui n'existe plus en partant parce qu'on ne peut pas le vendre. Des vélos chers, très chers, qui vont acheter les gens qui ont de l'argent vont s'acheter des choses chères. Tu l'augmentes de 100 %, c'est pas un problème parce que l'ego vibre au luxe. Puis quand tu as les moyens, tu vas l'acheter encore, ça donne du pouvoir. Mais c'est toujours encore en bas de la classe moyenne, en bas du moyen qui va payer pour. Mais oui, il y a de la pollution. Je dirais le vélo, c'est un petit peu un à côté d'une autre industrie qui est l'aviation, l'automobile. Ce que l'un fait, c'est comme on récupère un petit peu les miettes de ça avec ça, cette industrie-là. T'sais, le skidoo, la moto, c'est pas mal plus polluant. Puis ça vaut, c'est quasiment un motocross, quasiment un peu moins cher qu'un gros bicycle de descente. Puis bon, là, le monde y pense, mais ça ravage, ça pollue. Mais c'est le fun, t'sais. Fait que le temps que c'est le fun, ça te fait vibrer, ben le monde, ils vont acheter. Mais en tant que tel, je pense que chaque secteur de consommation a des choses à regarder, mais il y en a des plus pressants que d'autres. Une bonne conscience dans le vélo, ça ne va pas augmenter une grosse pollution, là. C'est pas un gros taux de pollution.
Donc, c'est assez intéressant ce que nous dit Frédéric, parce qu'il nous dit deux choses en même temps. Et en fait, il nous rapporte les deux positions qu'on a opposées. Il nous dit d'un côté, d'internaliser les coûts de la production du vélo va faire en sorte que des personnes qui se servent d'un vélo comme un moyen de locomotion ou qui n'ont pas beaucoup de revenus vont avoir la difficulté à utiliser, si jamais le vélo doit internaliser les coûts de la pollution. Mais d'un autre côté, il dit, mais de toute manière, le vélo n'est pas l'objet le plus polluant qu'on a avec nous. Il y a l'automobile, il y a l'aviation, etc., qui est quand même très polluante aussi. Et s'il y avait une croissance exponentielle du nombre de vélos, ça pourrait avoir des effets positifs. Donc, il y a quelque part où je sens que là, il y a un peu de vos deux positions qui pourraient se rejoindre ici. C'est-à-dire, est-ce que... il me semble que dans nos discussions, Pierre-Olivier, il y a quelque part où tu vas pour une décroissance de certains secteurs. Et il y a d'autres secteurs où on peut imaginer une croissance. Tu l'as évoqué toi-même tout à l'heure.
Oui, et c'est certain que toute la consommation problématique doit décroître. Mais il y a une consommation problématique, il y a une consommation qui n'est pas problématique. Donc une consommation qui a une forte empreinte écologique, la voiture, la viande, des grandes maisons avec peu d'habitants à l'intérieur, ce sont des pratiques qui effectivement ne sont pas durables, ne sont pas soutenables, sont vouées à l'échec. Et on dépense beaucoup d'argent pour en fait obtenir ce type de bien-là sans qu'il y ait aucune garantie de bonheur parce que en fait souvent on s'aperçoit que la voiture arrive avec du stress, avec la perte de temps, congestion, une grande maison vient avec une foule de contraintes et des obligations de paiement hypothécaire qui en fait polluent la vie des gens. Et donc si les gens se sortaient de ce type de consommation-là, mais pour commencer à consommer des choses qui étaient en fait beaucoup plus avec une empreinte écologique beaucoup plus petite, ben, il gagnerait. Mais sur le plan économique, ça ne signifierait pas du tout qu'il y ait une décroissance du PIB parce que les gens consommeraient autre chose, mais ils consommeraient des choses qui, en fait, n'ont pas d'empreinte écologique. Et l'objectif, ce n'est pas de brimer les consommateurs dans leurs habitudes de consommation, mais de les amener à mieux comprendre qu'il y a certaines choses qui sont problématiques sur le plan environnemental et d'autres qui ne le sont pas, et de les amener à faire les choix qui ne sont pas problématiques sur le plan environnemental. Donc, il y a une croissance de la bicyclette et même si, évidemment, il y a un problème avec la production de la bicyclette, ce problème est tellement infime comparé aux solutions que la bicyclette apporte et à la mobilité qu'elle apporte qu'on aurait une croissance de la bicyclette, une décroissance des accidents, de l'industrie automobile, des problèmes de pollution avec le pétrole et donc on aurait globalement une amélioration du sort de tous.
Yves-Marie, est-ce que tu penses que la décroissance amènerait une décroissance du nombre de bicyclettes qui seraient achetées et donc consommées, non pas achevées, mais est-ce qu'il n'y aura pas ici quelque part une croissance qui pourrait être souhaitable?
Illich, que j'ai cité tout à l'heure à propos du transport motorisé comme exemple de monopole radical, lui oppose au transport motorisé de la bicyclette comme outil convivial, dit-il. Donc, un outil qui convivial pourquoi ? Au sens où il permet de développer l'autonomie de chacun, en ce sens qu'on peut l'entretenir relativement facilement, etc. Donc, que ça nous donne quand même un outil pour se déplacer, etc., autant que faire se peut. Donc, oui, pas de souci sur la bicyclette, aucun. Sans retenue sur la bicyclette. Maintenant, la question que pose Pierre-Olivier, c'est est-ce qu'on peut avoir une croissance du PIB qui soit découplée de la consommation, donc c'est-à-dire de la destruction de nos ressources naturelles. Bon, c'est vraiment c'est un objet de débat actuellement. C'est clair que du côté de la décroissance, on va plutôt mobiliser des données, des chiffres qui nous disent que on n'est pas prêt de voir ce découplage arriver. En tout cas, pour ce qui est de ce qu'on a actuellement sous les yeux, on peut avoir un découplage relatif, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que la part de ressources qui est détruite dans la production d'unités économiques peut tendre à se réduire, mais c'est un découplage relatif en valeur absolue. Par contre, l'impact sur les ressources continue à augmenter. Évidemment, sur ces questions-là, il ne faut pas penser les choses à échelle d'une économie nationale, il faut penser les choses à échelle planétaire. Et on sait que nos économies nationales ont délocalisé justement cette part d'activité qui est extrêmement consommatrice, c'est-à-dire destructrice de ressources naturelles. On les a délocalisées ailleurs, ce qui donne aujourd'hui des données qui sont pas très encourageantes là-dessus. Et surtout, quand on les met en relation avec ce qu'il faudrait faire apparemment pour éviter certaines grosses catastrophes qui viennent, notamment sur le plan climatique. C'est-à-dire, compte tenu de l'urgence, c'est pas avec des ajustements tels que ceux que éventuellement Pierre-Olivier va préconiser qu'on va réussir à produire ce découplage nécessaire. Donc voilà, mais c'est vraiment une question de diagnostic au départ. Et effectivement, notre diagnostic est beaucoup plus pessimiste que celui, je pense, de Pierre-Olivier. D'où aussi une réponse qui est plus radical, c'est-à-dire il faut vraiment changer radicalement. Bon, on pourra parler ensuite des manières d'envisager ce changement.
Oui, Dominique.
Donc, je suis loin d'être un expert sur les questions de décroissance, mais je ne sais pas si je peux me permettre de vous poser une question. En fait, donc à chaque fois que j'entends parler de la décroissance, la première question qui me vient en tête, en fait, c'est qu'est-ce qu'on entend par là dans le sens de comment on la mesure exactement. Et là, il semble avoir un désaccord entre vous deux et j'ai l'impression que le désaccord porte en fait sur la façon dont vous mesurez la décroissance. Donc, vous avez parlé de ressources environnementales, donc mesurer ultimement en termes de ressources environnementales, alors que dans votre cas, il était question de PIB qui ne décroîtrait pas. Donc, je ne sais pas si c'est... Donc, je lance simplement la question. Là, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'on entend exactement par la décroissance.
Au niveau de la décroissance, moi, je suis une personne qui pense qu'il y a des problèmes et qu'il faut résoudre les problèmes, mais qu'on a les outils qui ont été mentionnés, que Maya a extrêmement bien présentés. Ces outils sont là et qu'on peut les utiliser pour décroître les problèmes. Maintenant, il ne faut pas penser que le PIB est une mesure parfaite. Elle est très, très loin d'être parfaite. On a un ensemble de problèmes qui sont liés à ça, notamment le fait que, justement, un grand nombre de coûts sociaux et environnementaux ne sont pas mesurés dans le PIB. Alors, bien sûr, encore une fois, il faudrait internaliser ces coûts sociaux, ces coûts environnementaux pour véritablement essayer d'avoir une mesure du niveau de vie général pour nous permettre de voir si on s'améliore ou on s'améliore pas. Je pense que intrinsèquement, dans la position que je défends, il y a l'idée que oui, le sort des humains peut s'améliorer sans que ça soit au détriment de la nature. Alors je crois qu'il y a un progrès qui est possible. Je pense pas qu'il est qu'il arrive de soi. Les humains sont en parfaite mesure de faire des erreurs catastrophiques et notre société, nos sociétés le montrent, qu'on peut très facilement aller dans des mauvaises voies, mais ça ne veut pas dire que les outils ne sont pas là pour qu'on puisse redresser le cap et aller sur la bonne voie. Je propose en fait des changements radicaux dans le sens où je proposerais des tarifications radicales, des changements de mode de transport radicaux, des changements d'habitation radicaux avec bien sûr une information, une liberté qui serait à travers tout ça, mais à travers des incitatifs assez radicaux, mais qui globalement permettraient d'avoir des changements très importants. Maintenant, ça demande un niveau d'éducation et d'information et de sensibilisation que nos citoyens et nos gouvernements ne semblent pas vraiment avoir à l'heure actuelle.
Je réponds juste sur la. Ouais. Vous dites comment on mesure. Ben, une des différences importantes par rapport à la position de Pierre Olivier, c'est que précisément, on va dire, arrêtons de mesurer. C'est-à-dire que donc on quitte le régime de la mesure de tout et notamment de la mesure économique. Donc la décroissance, c'est fondamentalement un slogan au départ qui appelle à une sortie de la logique de la croissance. Donc pour plutôt s'engager sur une logique d'accroissance, bon, sauf que c'est un peu dur à prononcer, mais c'est bien ça, c'est sortir d'un chemin, en fait, fondamentalement. Et donc sortir de la mesure de la valeur telle qu'on le fait. Donc il y a tout un travail intéressant à faire sur la critique du PIB, mais c'est, on va plus loin à dire, ben non, quittons cet indicateur. L'indice de développement humain, bah, c'est pas tellement mieux. On sort de cette logique-là. Donc sortir, c'est un autre slogan qu'on utilise, c'est sortir de l'économie, en fait, fondamentalement. Pourquoi ? Parce qu'on pense, je me suis mis ça comme pense-bête, la fameuse citation d'Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. C'est-à-dire que c'est précisément la position de Pierre Olivier qui pense que on a les outils économiques aujourd'hui qui vont permettre de résoudre les problèmes que nous a posés l'économie capitaliste au sens large, parce que c'est pas mieux évidemment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le socialisme réellement existant. On a fait la même chose, mais c'est un capitalisme d'État qui pose les mêmes problèmes fondamentaux. Donc on peut pas avec ce mode de pensée-là et les outils que ça a inspiré, on va pas pouvoir résoudre le problème dans lequel on est. Il faut vraiment sortir de cette logique, d'où alors un autre terme qu'on utilise aussi, mais qui renvoie à des choses là où Pierre-Olivier serait sans doute d'accord, c'est on va parler de décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire d'abord sortir de la logique de la croissance, sortir de ce progressisme dans lequel on est, etc. Donc, c'est par là qu'on rentrerait dans la transition, par cette décolonisation.
J'aurais aimé vous présenter une autre pièce musicale, mais nous sommes passionnés ici, le temps avance et on a pris un peu de retard sur notre horaire. Donc je vais passer par-dessus la prochaine pièce musicale qui était du klezmer mélangé avec la musique house, qui aurait été incroyable. Mais vous allez retrouver la pièce sur notre site internet. Je vais donner la parole à Robert Mondery, qui est un cinéaste qui a fait avec Richard Desjardins des films sur les problèmes de la production dans divers milieux. Par exemple, la production au niveau de la foresterie, la production au niveau des mines, la production au niveau de l'eau aussi, qui est un film qu'on a moins connu, qu'on a moins remarqué. Donc, Robert prend un peu la balle au bond là, qui a été lancée par Yves-Marie concernant les problèmes liés à la production. Et je dirais plus précisément les problèmes locaux qu'on peut voir dans les communautés où il y a la production forte de certains domaines et industries.
Ce qui peut être dommageable pour les générations futures, c'est si on n'identifie pas les véritables coupables, les véritables prédateurs, les véritables empoisonneurs industriels qui saccagent des régions aujourd'hui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une réussite des relations publiques de ces pollueurs-là d'avoir culpabilisé un peu le consommateur. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme une sorte d'impuissance, puis change-toi toi-même, tu peux pas changer le monde, change-toi toi-même. On dirait que c'est les relations publiques de ces compagnies-là qui ont réussi à canaliser un peu ce qui aurait dû être une charge de colère, ce qui devrait être une dénonciation, ce qui devrait être quelque chose comme ça. Ils ont réussi à culpabiliser le consommateur. Puis moi, je trouve que c'est une réussite pour leur service de relations publiques. Je veux dire, il faut les dénoncer, il faut les montrer, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, il faut prendre leur activité, il faut les suivre. C'est la seule chance. T'sais, si on cherchait des solutions collectives, on en trouverait. Je veux dire, si à un moment donné, les vrais enjeux seraient placés. À Rouyn-Noranda, c'était 500 000 tonnes d'anhydride sulfureux qui sortaient par année. C'était le plus gros pollueur du Canada. Je veux dire, individuellement, c'était pas grand-chose à faire, surtout quand ton père il travaille à la mine ou des affaires comme ça. Tu vas être toujours pogné pour les comprendre ou pour être complice d'eux autres si tu fais pas la coupure.
Alors, moi, ce qui m'a interpellée dans ce que Robert Mondry nous disait, c'est notamment que donc on culpabilise le consommateur, comme si le consommateur finalement était le seul responsable en dernière instance des problèmes énergétiques. Alors, ça nous pose effectivement des questions d'éthique et de politique. Et je lance la question comme ça. Est-ce que dans les différentes politiques que vous proposez, est-ce qu'il faudrait intervenir de manière autoritaire sur le consommateur lui-même et lui faire porter toute la charge de ces problèmes énergétiques, ou est-ce que il y aurait des changements qui pourraient se faire plus en douceur? Est-ce que on a parlé d'efficience tout à l'heure, mais du coup, est-ce que on doit privilégier l'efficience à court terme au risque d'avoir des politiques tarifaires autoritaires, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler dans la durée sur l'imaginaire, comme Yves-Marie en avait parlé, et l'éducation?
Moi, j'ai un peu peur des solutions qui ramènent à plus tard le début du changement. Je pense qu'il faut agir dès aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas s'extraire de notre société pour toutes les bonnes raisons qui existent, qui font en sorte qu'on est dans notre imaginaire actuel. Nous sommes dans notre imaginaire actuel. Je ne pense pas qu'on puisse faire des lavages de cerveau de nos compatriotes pour leur mettre un nouvel imaginaire. Alors oui, il faut pas laisser cours à la pollution de l'imaginaire, comme on peut l'avoir à travers une publicité trop agressive ou débridée. Mais il faut partir de là où on est et améliorer nos pratiques de là où nous sommes. Et il faut suivre les producteurs, comme Monsieur Mondry le dit, parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens hors la loi à tous les niveaux. Mais il faut aussi se rappeler que, en bout de ligne, ces producteurs ne produisent pas pour eux-mêmes, ils produisent pour les consommateurs. Alors, les gens ont le choix, contrairement à ce que dit Yves-Marie. On a le choix aujourd'hui de ne pas utiliser de voiture, puisque lui-même vit sans voiture. Moi, je vis aussi sans voiture. Qu'on en loue à l'occasion, c'est un monde différent d'avoir posséder deux ou trois grosses voitures, ou en utiliser une à l'occasion. Alors déjà, on peut faire ce genre de choix qui en fait sont bénéfiques pour les finances personnelles et la mobilité individuelle. Et donc on peut ces choix-là sont à notre portée, et il faut utiliser la panoplie des outils qui sont disponibles.
Mais est-ce que, en termes d'efficience, la liberté de choix pourrait changer les choses parce que vous parliez d'augmenter le prix de l'électricité, par exemple, et là, ça réduit du coup la possibilité de choix de vie des consommateurs.
Augmenter le prix de l'électricité, c'est sûr que ça peut avoir un impact direct négatif à court terme, mais ça peut aussi amener les gens à réfléchir sur les manières de consommer moins. Et c'est ce message-là qu'il faut amener. Alors c'est sûr que l'outil tarifaire ne doit pas être utilisé seul. J'ai dit depuis le début qu'il fallait mettre de l'information pour informer les gens sur les manières de consommer moins, et elles existent, elles sont possibles. Et en fait, il y a beaucoup d'investissements dans l'enveloppe thermique des bâtiments qui permettraient effectivement de consommer moins et d'être plus rentable à long terme, puisqu'on dépenserait aujourd'hui pour mieux isoler ses maisons, pour économiser pendant les 20-30 prochaines années en coûts de chauffage. Et financièrement, ça serait mieux pour les individus, mais il y a des efforts et des coûts de transaction qui font en sorte qu'on ne le fait pas. Et en plus, le fait que souvent on ne sait pas trop comment on est chauffé, comment l'enveloppe thermique est faite, alors on ne se pose même pas la question sur peut-on améliorer sa manière de consommer.
Je pense que Pierre-Olivier, il a parlé de choix par rapport au choix par rapport au bien de consommation. Je pense qu'il y a aussi un choix politique que le consommateur citoyen peut faire. Donc, on a discuté dans cette émission, les instruments existent. C'est une question de problème d'action collective. Il faut mettre en œuvre des politiques. Et dans ce sens-là, je pense que le citoyen peut faire des choix. On peut regarder dans certains pays où ça n'a pas complètement changé le système, mais si on regarde des pays comme l'Allemagne et les pays scandinaves, on a fait des choix qui sont positifs en termes d'énergie, d'environnement. Puis, donc dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas juste une question de renvoyer la balle entre producteurs et consommateurs, c'est une question de choix collectif qu'on peut faire.
Donc la question, c'était: peut-on culpabiliser le consommateur? J'aimerais peut-être évoquer une raison pour laquelle il faut parfois avoir certaines réserves, et dans ce que M. Pinault a dit, ça a été mentionné. Donc quand on choisit par exemple d'acheter de la nourriture ou différents biens, il est relativement facile dans certaines situations d'avoir des informations assez précises sur les origines de ces biens-là, sur leur mode de production. Mais il y a toute une série de biens pour lesquels c'est beaucoup plus difficile en fait de savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, avec quel impact environnemental, avec quel degré d'efficience, etc., etc. Et donc le témoignage qu'on a entendu de Monsieur Mondéry, en fait, où on nous parlait de la Rouyn-Noranda qui produisait du cuivre, je crois, c'est ça, des
plusieurs types de métaux.
plusieurs types de métaux. Je suis vraiment désolé, mais moi, en tant que consommateur, quand j'achète du cuivre, il m'est extrêmement difficile de savoir, d'évaluer la quantité d'anhydride sulfureux qui sont émis dans l'atmosphère pour différents types de cuivre possibles. Donc, pour utiliser un concept des sciences économiques, le fort cité, c'est une situation où il y a des asymétries d'information importantes. Et peut-être que dans ce type de situation-là, ou pour ce type de bien-là, en fait, il faudrait ne pas trop culpabiliser le consommateur, justement.
Marc, tu voudrais intervenir?
Moi, je voudrais juste dire que quand il s'agit d'augmenter, par exemple, les coûts de l'électricité, je peux pas m'empêcher de penser que l'électricité n'a pas la même valeur pour tout le monde, dans le sens où il est bien évident que quand une famille a des revenus extrêmement importants, sa note d'électricité, elle la regarde pas vraiment. Quand une famille a des revenus modestes, elle la regarde. Et si on lui augmente encore l'électricité, on augmente son le poids qu'on lui fait peser. Et ce poids va pas être partagé de la même manière du tout en fonction des revenus des gens. Je pense qu'il faudrait, si on a l'idée, par exemple, de modifier les coûts d'électricité, je crois qu'il faut voir deux choses différentes. C'est d'abord, que coûtent les industriels? Que consomment les industriels? Que consomment les bâtiments publics? Que consomment les bâtiments qui appartiennent finalement à tout le monde et sur lesquels on peut avoir faire des opérations qui sont des opérations d'économie d'énergie? Pensez à tous les appareillages qui ont une diode allumée en permanence. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul de toutes les diodes qui sont allumées dans une maison en permanence, tout simplement parce que les appareils sont en veille et n'ont pas éteint. Bon. On peut faire ça pour les bâtiments publics et on peut économiser de l'énergie dans les bâtiments publics. Et faire payer, par exemple, les industriels quand ils consomment de l'énergie, parce qu'ils sont grands consommateurs d'énergie. C'est normal qu'ils payent pour cette énergie puisqu'ils vont tirer des revenus de cette consommation d'énergie. C'est pas la même chose de faire payer le public. Je pense que moi, je suis d'accord avec une modulation des prix de l'électricité, surtout dans un pays comme le Canada, qui est un pays qui peut en produire beaucoup. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ce que ça a comme impact sur les individus eux-mêmes.
Et je renchérirais juste la question, c'est est-ce que les riches ont le droit de polluer?
Oui, tu dis bien les choses. Je pense que j'ai parlé d'une dérive possible tout à l'heure, c'est celle de l'expertocratie. La deuxième, c'est celle de la plutocratie. À mon avis, c'est ce qu'on risque d'avoir aussi avec ce genre de mesures. Donc une collègue avait publié un livre qui a eu du succès au Québec, là, Acheter, c'est voter. On est du côté de la décroissance très contre ce genre de position parce que on passe de un humain une voix à un dollar une voix. Et donc ça devient inacceptable pour d'autres raisons qui sont plus des questions environnementales. C'est pour ça qu'il faut absolument aussi ne pas rester sur le terrain environnemental, puis merci de ramener cette dimension-là. Il y a vraiment au départ des valeurs fondamentales dans nos sociétés qui sont celles de liberté, d'égalité, qu'il faut absolument préserver. Ou alors on peut changer complètement d'imaginaire, radicalement, mais si on reste attaché à ces valeurs-là, c'est encore une autre des raisons pour lesquelles il faut changer. J'ajouterais par rapport à ce que tu disais qu'on est tout à fait persuadé qu'il c'est tout de suite qu'il faut agir et non pas à long terme. C'est très 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 rapidement, avant qu'effectivement on passe à un écofascisme et qu'on subisse la pression des experts qui vont nous dire effectivement ce qu'on doit consommer ou pas. Avec une autre dimension qu'il faut évoquer par rapport à ça, qui est le fameux principe d'internalisation des externalités, qui est le pareil, on est encore dans le même paradigme économique. Une des grosses difficultés de cette solution-là, c'est la question de l'équité intergénérationnelle. Comment est-ce qu'on peut se prononcer sur la valeur de ce que c'est, qu'accorderont les générations futures à nos biens? Il n'y a aucun moyen de le savoir. On ne sait absolument pas de quel droit, sur le plan philosophique, on peut poser une décision de ce genre. J'en vois pas. En tout cas, économiquement, les outils ne sont pas là. Donc on reste prisonnier là de l'individualisme méthodologique qui est au fondement de ces outils-là. Et on bute là-dessus. Donc il y a un vrai problème là. Et si on passe au travers de ce problème-là, on retombe à nouveau dans cette expertocratie où ce sont des économistes notamment qui vont nous dire effectivement ce que voudront pour nos arrière-petits-enfants telle ou telle ressource. Bon, c'est ce qui, à mon avis, est inacceptable.
Alors, c'est évident que si on parle du problème de l'énergie et de la consommation, les solutions qu'on met de l'avant vont avoir une incidence sur d'autres éléments, des éléments essentiellement d'équité que Marc a très justement évoqué. Et les questions d'équité sont très importantes. Et il y a manière de préserver l'équité en s'assurant d'agir sur la consommation d'énergie. Et donc, évidemment, il ne faut pas le faire de manière naïve et aveugle en se disant on va uniquement augmenter le prix de l'électricité et voilà, c'est la solution miracle à tout. Ce qu'il faut dire, comme je l'ai dit, il faut informer tout d'abord et il faut aussi comprendre que la consommation d'électricité, c'est en grande partie le chauffage qui est le problème et non pas les lumières, même si on peut fermer tous les appareils et il faut fermer tous les appareils. Il faut cesser de se focaliser, de se concentrer sur des exemples complètement mineurs comme celui des serveurs, des chercheurs scientifiques qui utilisent de l'électricité ou de nos télévisions ou des lumières allumées, parce que ça représente 15% de notre consommation. Le vrai problème, c'est le chauffage et le chauffage de l'eau. C'est ça qui accapare 60-70% de la consommation dans les demeures, et donc c'est sur ça qu'il faut agir. Et donc au niveau d'équité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que le gouvernement ait une politique de logement social et un code du bâtiment qui s'assure que nos bâtiments sont bien conçus et que la politique de logement permette aux familles de se loger de manière acceptable et confortable. Et une fois que ça sera fait, eh bien, elles pourront payer la facture d'électricité qui sera réduite parce que ce logement sera bien conçu. C'est d'ailleurs ce que les pays nordiques font. Le prix d'électricité a été complètement déréglementé dans les pays nordiques, avec une hausse des prix parce que le prix de marché est en général plus élevé que le prix réglementé. Parce qu'il est réglementé à un niveau bas, surtout dans les provinces ou les États qui ont des grandes ressources hydroélectriques, comme la Norvège, mais les populations moins favorisées pouvaient malgré tout payer le prix d'électricité parce qu'elles avaient par ailleurs des transferts gouvernementaux et accès à des logements qui ne nécessitaient pas beaucoup d'électricité pour se chauffer. Donc, il faut avoir conscience de façon très, très, très aiguë des problèmes d'équité, mais il ne faut pas s'empêcher d'avoir des actions fortes au niveau de l'énergie au nom d'une équité, alors que, en fait, actuellement, comme ce sont les riches qui utilisent le plus d'énergie, ce sont eux qui dilapident le plus nos ressources énergétiques et c'est en fait tout à fait inéquitable que eux gaspillent cette énergie sans en payer le réel coût.
Je pense qu'on peut passer la parole à Daniel Weinstock, qui va nous parler d'une de ses lectures récentes.
Avant que tu commences, Daniel, puisque tu nous reviens d'Angleterre, je voudrais te faire entendre cette introduction du groupe que tu n'as peut-être pas vu, mais qui va te rappeler Londres à la première note.
Alors, ce ne sera pas une habitude, mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'un best-seller, d'un livre qui est depuis quelques semaines dans le top 10 du New York Times, un livre d'un psychologue expérimental qui s'appelle Daniel Kahneman. Alors, Daniel Kahneman vient de publier un livre qui s'appelle « Thinking Fast and Slow », donc « Penser vite et lentement ». Daniel Kahneman, c'est son premier livre, mais il n'en est pas à ses premières armes, puisque avec son collègue israélien Amos Tversky, depuis 40 ans, il s'ingénie à démontrer que les prétentions que nous avons à penser que nous sommes des êtres rationnels, eh bien, il faut que nous les mettions au placard. Je ne pensais pas que la discussion que j'allais vous proposer avait une pertinence directe avec le propos d'aujourd'hui, mais je crois qu'elle en a une et ça deviendra clair. Alors, Kahneman et Tversky, depuis 50 ans, mènent des expériences. Donc, ce sont des gens qui ne pensent pas à la rationalité de manière purement abstraite, assise dans leur fauteuil. Ils mènent des expériences, souvent avec des étudiants d'université, qui sont les victimes de leur démonstration de l'irrationalité. Et la conclusion à laquelle Kahneman et Tversky en sont arrivés est une conclusion très intéressante. Essentiellement, nous aurions deux modules totalement indépendants pensée. L'un d'entre eux, de manière très originale, Kahneman et Tversky appellent le système 1, est un système qui nous a en quelque sorte été légué par une étape relativement précoce de notre évolution. C'est un système qui fait que nous pensons rapidement. Bon, pensons à nos ancêtres. Lorsque un lion se dirigeait vers eux avec une intention apparemment malveillante, de trop réfléchir pouvait en quelque sorte leur coûter la vie. Et donc, nous avons développé des heuristiques, des raccourcis, pourrait-on dire, pour évaluer les dangers, les opportunités, etc. Ce sont des, pour le dire très rapidement, rapidement, des heuristiques sont basées davantage sur l'intuition que sur une véritable réflexion délibérée, comme celle à laquelle on se livre, par exemple, dans les départements de philosophie. S'ajoute à ça le système 2, qui est un ajout plus tardif de l'évolution, qui, lui, est basé davantage sur la réflexion et le raisonnement. Bon, alors, le problème est que le système 1, c'est une très bonne chose, Kahneman et Tversky, Kahneman dans ce livre, c'est une très bonne chose qu'on l'ait, parce que, imaginez votre journée jusqu'aujourd'hui. Vous vous êtes livré, vous ne vous en rendez pas compte, à une quantité de décisions absolument inimaginables. Et ces décisions, vous n'en étiez pas conscient, et pour la plupart, vous les avez réussies. En d'autres termes, vous vous êtes rendu ici, habillé à peu près comme il faut pour la température ambiante, vous n'avez pas été frappé par un autobus, du moins j'espère que non. Vous avez posé tout un tas de gestes tout à fait banals qui ont été opérés pendant que vous étiez en train de penser à autre chose, peut-être, parce que votre système 1 était pleinement opérant. Le problème du système 1, c'est qu'il se trompe souvent. Il est basé sur... pas la plupart du temps, en fait, le système 1 nous rend service la plupart du temps. Mais il se trompe parfois, et il se trompe parfois avec des conséquences relativement graves. Alors, le livre Thinking Fast and Slow est essentiellement un inventaire des véritables des irrationalités auxquelles nous sommes en proie lorsque nous laissons trop de cours à notre système 1. J'en nommerai deux comme ça, vous reconnaîtrez sans doute, vous reconnaîtrez ou vous reconnaîtrez vos voisins lorsque je les mentionnerai. Il y a par exemple l'heuristique, je traduirais, de la disponibilité, en anglais, the availability heuristic. Un exemple, de quoi avez-vous peur? Ben, vous avez peur de la dernière chose dont vous avez entendu que quelqu'un que vous connaissez a été la victime. Bon, un exemple frappant, après les attentats du 11 septembre, vous savez que l'année qui a suivi les attentats du 11 septembre a été jusqu'à tout récemment, donc jusqu'à cette année, l'année la plus sécuritaire dans l'histoire de l'aviation commerciale. Or, il y a des lignes aériennes qui sont tombées en faillite parce que les gens ne voulaient plus monter dans un avion. Bon. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient fait une réflexion rationnelle les menant à la conclusion qu'ils avaient un grand risque d'être victimes d'un attentat terroriste? Non. C'est tout simplement que cette heuristique, extrêmement puissante, on pense aux images, combien de fois répétées des avions se plongeant dans les tours, leur ont fait faire de sorte qu'ils avaient peur de la dernière chose dont ils avaient entendu parler. Au niveau de la maladie, c'est la même chose. Si votre voisin vous dit qu'il est frappé du cancer du côlon, ben vous allez commencer à développer toutes sortes de symptômes qui vous font penser que vous aussi, vous devez avoir cette maladie puisque vous venez d'en avoir entendu parler. Autre heuristique qui, alors là, me semble très intéressant et peut-être même plus profond, c'est celui qui nous consiste à voir de l'ordre là où il n'y en a pas, de chercher des rapports de causalité relativement simples pour expliquer des événements dont nous sommes témoins, alors que, très souvent, la causalité qui a donné lieu à un événement peut être d'une telle complexité qu'elle est au-delà de notre portée. Donc, il y a une variante de cette heuristique qui consiste, par exemple, à faire penser que les gens payent leurs péchés. Hein? Donc, si quelqu'un a subi un tort, c'est qu'elle a sans doute fait quelque chose pour le mériter. Hein? Donc, nous avons toutes sortes d'heuristiques comme ceux-là qui dominent notre pensée. Bon, de temps en temps, ça cloche. Et le système 2 est là pour reprendre en quelque sorte le dessus lorsque les heuristiques du système 1 ne fonctionnent pas. Le problème, nous dit Kahneman, c'est que le système 2 est paresseux. Il est paresseux et il est autant enclin, sinon plus, à trouver des rationalisations de nos heuristiques du système 1 que d'essayer de surplomber le système 1. De donner une histoire, de raconter une histoire qui permette de donner raison au système 1. C'est un livre de 400 pages qui se lit vraiment comme un plaisir parce que c'est un inventaire de toutes les expériences auxquelles Kahneman et Tversky se sont livrés depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs, lauréat du prix Nobel, la petite note triste, c'est que Tversky est mort avant d'avoir pu être nommé lui aussi lauréat du prix Nobel avec son collègue Daniel Kahneman. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'éthique? Vous pouvez me poser la question. Ben, c'est la chose suivante. Il y a énormément de sciences sociales, et je dirais que la philosophie, quand elle porte sur les sujets humains, est portée par ce préjugé. Énormément de sciences sociales basées sur la présomption que l'être humain est un être rationnel. Hein, il peut calculer coûts et bénéfices pour lui-même de manière totalement rationnelle. Or, ce que Kahneman et Tversky et d'autres, il y a eu des best-sellers dans les dernières années, je pense à un livre d'un psychologue expérimental étudiant de Kahneman qui s'appelle Daniel Gilbert, qui s'appelle « Stumbling onto Happiness », qui dit essentiellement que par des méthodes expérimentales, nous pouvons voir que les êtres humains sont très mauvais pour déterminer ce qui, dans le futur, les rendra heureux et que pour vraiment être heureux, il faut qu'ils changent entièrement leur manière de penser. Si nous ne sommes pas rationnels, si par exemple nous ne sommes pas nous-mêmes les meilleures personnes pour déterminer ce qui nous rendra heureux, ben il y a une autre prémisse assez forte dans nos démocraties libérales qui potentiellement tombe également, c'est celle du paternalisme. Un État libre, un État respectueux des droits de ses citoyens est un État qui ne dit pas aux citoyens ce qu'ils devraient et ne devraient pas faire pour se rendre heureux puisque les citoyens sont ultimement les meilleurs placés pour le faire. Si nous lisons Kahneman, ben, ce présupposé en prend, comme on dit, pour son rhume et c'est toute une porte ouverte au paternalisme. Je terminerai par exemple en évoquant un autre livre, je triche un peu en mentionnant plusieurs, de Cass Sunstein et Irving Thalberg, qui s'appelle Nudge, qui nous dit essentiellement que dans la mesure où nous prenons au sérieux le fait que les gens ne sont pas particulièrement rationnels, rationnels au sens de capables de déterminer ce qui les rendra heureux à court, moyen et long terme, pourquoi ne pas mettre en place des politiques qui, de manière subtile, les poussera à faire la bonne plutôt que la mauvaise chose? Mettons des aliments sains à hauteur de vue dans les magasins plutôt que des cochonneries. L'individu qui est porté par l'heuristique qui lui fait tendre la main et aller chercher l'aliment qui est le plus proche, il mangera son brocoli plutôt que sa barre de chocolat. On aura été paternaliste tout en respectant la liberté de l'individu, mais on aura été paternaliste de manière justifiée, étant donné l'irrationalité maintenant fortement documentée que Daniel Kahneman fait état, dont Daniel Kahneman fait état dans son livre. Alors voilà, sommes-nous si irrationnels que cela? À vous d'y réfléchir d'ici le mois prochain.
Merci Daniel. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à...
Je pense qu'il y a une science sociale qui repose très largement sur ce postulat de la rationalité, c'est l'économie, oui, ça c'est certain. En sociologie, y compris quand on intègre le postulat de la, enfin quand on est dans le cadre de la méthodologie de l'individualisme méthodologique, je pense à Max Weber, à une typologie de l'action qui intègre évidemment d'autres modalités d'action que celle de l'action rationnelle. Donc on le sait, je dirais, depuis longtemps. On est content de voir que ça progresse. Cela dit, tu parlais de lavage de cerveau tout à l'heure. Je vais t'en envoyer une vacherie. Je pense que puisque tu m'en envoyais une tout à l'heure, c'est de bonne guerre. Il y a un lavage de cerveau que nos étudiants subissent encore. C'est-à-dire qu'à HEC, nos enseignements restent basés sur ce postulat de la rationalité individuelle. Et c'est, à mon avis, ça fait partie du problème. C'est-à-dire qu'on va tenter de résoudre nos problèmes actuels avec des postulats qui sont anciens et qui sont probablement en partie responsables de la situation dans laquelle on est. Donc, content de voir que ça soit questionné peu à peu.
Moi, je voudrais intervenir parce que je suis justement en train de lire le livre de Kahneman et j'ai pas une position philosophique par rapport à ça, mais j'ai une position, pédagogique. Ce que dit Kahneman en particulier, c'est que les deux systèmes, le système 1 et le système 2, sont distincts, mais ils sont pas indépendants. C'est-à-dire que quand le système 1, par exemple, quand on pousse les gens à être bien dans leur système 1, c'est-à-dire à être heureux, ils ont tendance à faire plus d'erreurs de jugement que quand ils sont malheureux. Parce que quand ils sont malheureux, ils sont méfiants. Et quand ils sont méfiants, ils examinent les problèmes de façon plus approfondie. Et ça a des conséquences tout à fait importantes par rapport à, justement, ce qu'on peut appeler les manipulations sociales ou médiatiques. C'est-à-dire que donner l'impression aux gens qui sont heureux en leur donnant du bonheur et en, comment dirais-je, travestissant la réalité, ça atténue leur sens critique. Et dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'il faut être malheureux, absolument. Ça veut dire que il y a une partie, c'est ça que je vois dans le livre de Kahneman, il y a une partie éducative très importante à faire et qui devrait être intégrée, j'espère, petit à petit, justement dans l'éducation des individus. C'est de leur dire, d'abord, vous fonctionnez comme ça, et ensuite, vous avez toujours intérêt, quand vous avez une impulsion, une intuition qui vous pousse vers quelque chose, à vous arrêter 2 minutes. Et à réfléchir. C'est vraiment, ce livre est vraiment passionnant et très éclairant. Et c'est pas du tout quelque chose qui porte justement, à mon avis, vers. Tu le disais de façon un peu provocatrice, vers le paternisme, mais ça porte beaucoup à la prise de conscience personnelle et à la méfiance vis-à-vis de ses propres intuitions. C'est vraiment un livre passionnant.
Maya, on est rendu au mot de la fin. Dernières interventions. Wrap-up, comme on dit.
Non, mais en fait, je suis juste content qu'on termine l'émission sur un mot de pas, qu'on se retrouve à un état écofasciste, mais plutôt avec un état paternaliste des sages à la Platon.
Moi, j'irai plus loin. Enfin, je pense qu'effectivement, pour aller dans votre sens, ça, c'est plutôt un appel au débat démocratique, précisément. Une des façons d'éviter cet écueil, plutôt que de manipuler les gens et de faire leur bien contre leur volonté, éventuellement, ou sans qu'ils le sachent. C'était Hayek aussi qui préconisait ça. Je pense que ça, au contraire, il me semble que ça impliquerait de revitaliser le plus possible le débat démocratique. Peut-être quelque chose qui ressemble à l'agir communicationnel de Habermas.
Et je pense qu'il faut souligner que s'il y a le système 1, il y a le système 2, et que le livre de Kahneman, que je n'ai pas lu, mais comme Daniel le mentionne, montre qu'il faut avoir ce système 2 présent pour nous aider dans certaines situations. Donc il faut essayer de le comprendre, de savoir où est-ce qu'il est utile, où est-ce qu'il n'est pas utile. Mais si on sait où est-ce qu'il est utile, eh bien, il faut l'utiliser et le mettre à profit pour résoudre les problèmes auxquels on fait face.
Je vous remercie, merci à tous pour avoir participé à cette émission qui a été très intéressante. J'espère que ça aura donné aux auditeurs des éléments, des arguments dans ce débat à propos des défis énergétiques. Je remercie aussi Marc Zafran et Daniel Weinstock pour leur chronique, qui était fort intéressante.
Merci Margot, et je rappelle à nos auditeurs que toute la musique que vous entendez est disponible sur le site du Créum, incluant aussi la pièce que nous n'avons pas fait jouer. Et nous allons terminer avec Herba Gogo du groupe DJ Barkax. À la prochaine.
Am I on? Back with the herbalizer. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here go, here go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene killer, giggle a cripple, women tripping, sipping, sham pipple, a doppelganger dropping, a toxic avenger, ugly, paradoxical, syllable, seen the hug, sucker, proxy, medical accident, gene, genetic happening, frozen, cryogenic, hyperbaric chamber, cinch rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days, you flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, or the workers who give you burgers when you order at McDonald's with purse. I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got. It's been a long time. Anyway, yeah, I drink tea and beer, but only when I'm in London with you guys, the smoking, smokety smokers with your silly smoking habits.
Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb.
He asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene kill it, giggle a cripple, women tripping, sipping, sham pipple, a doppelganger dropping, a toxic avenger, ugly, paradoxical, syllable, seen the HUD, sucker, proxy, medical accident, gene, genetic happening, frozen, cryogenic, hyperbaric chamber, since rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days, you flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, or the workers who give you burgers when you order at McDonald's. A purse, I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got.
Kiss me. Kiss
yeah,
me.
I drink tea and beer, but only when I'm in London
kiss
with you guys.
Kiss
smoking, smokety smokers with your silly smoking habits.
Kiss me.
Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb.
He asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene kill it, giggle a cripple, women tripping, sipping, sham pipple, a doppelganger dropping, a toxic avenger, ugly, paradoxical, syllable, seen the HUD, sucker, proxy, medical accident, gene, genetic happening, frozen, cryogenic, hyperbaric chamber, since rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days, you flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, or the workers who give you the burgers when you order at McDonald's. Good purse, I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got.